Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Le mois de juin est traditionnellement consacré au Sacré-Cœur de Jésus pour Marie-Joseph Cassan, moine trappiste à l'abbaye Sainte-Marie du Désert au nord de Toulouse. Le Sacré-Cœur était toute sa vie. L'anniversaire de sa mort, le 17 juin 1903, coïncide justement avec cette dévotion. Que nous dit ce bienheureux si discret de ce cœur qui a tant aimé les hommes? Comment le Père Cassan touche-t-il les personnes accueillies au village de François? Le père Marie-Joseph Cassan a vécu entre 1878 et 1903. Le pape Jean-Paul II l'a béatifié le 3 octobre 2004. Il a été moine trappiste à l'abbaye Sainte-Marie du Désert. Cette abbaye a vu ses derniers moines la quitter il y a bientôt 5 ans. Elle abrite aujourd'hui le village de François qui accueille une soixantaine de personnes fragilisées par la vie. Et deux de ses membres sont nos invités aujourd'hui. Le premier, c'est Alexandre Pontier. Bonjour Alexandre Pontier. Vous êtes installé au village de François avec votre femme et vos deux enfants et demi, m'avez-vous dit, ça leur fait 2 ans et demi et vous êtes chargé des archives de l'abbaye.
Exactement.
Et donc vous allez nous parler de ce bienheureux Marie-Joseph Cassan. À vos côtés, William Bourg, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous faites aussi partie de ce village de François et vous, ça fait depuis 4 ans et demi que vous y habitez.
Tout à fait.
Voilà. On va commencer, avant d'explorer ce lien entre le cœur de Jésus Marie-Joseph Cassan, on va commencer par expliquer quel homme il était. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots?
Oui, tout à fait. Alexandre. Je pense que même Dom Pierre-André Burton, qui est le dernier père abbé de l'abbaye Sainte-Marie du Désert, en parlera même plus précisément que lui dans une conférence qu'il a donnée sur le lien entre frère Joseph Cassan et le père André Mallet. Il décrit le petit frère, donc Marie-Joseph Cassan, d'un tempérament lymphatique au dynamisme très faible, très nerveux et très émotif. Il est miné par les obsessions déprimantes, par un sentiment très vif de son impuissance personnelle, un sentiment qui est entretenu par ses incapacités intellectuelles qui favorisent chez lui un complexe d'infériorité. Mais c'est aussi un grand sentimental, plein d'amour pour son prochain et optimiste au sujet d'autrui, doux, tendre et dévoué. Donc à la fois une personnalité avec des difficultés intellectuelles et beaucoup de scrupules, mais on va voir qu'en fait, il va s'en libérer au fur et à mesure, en particulier de sa vie monastique. Mmh. Et puis, c'est vient être compensé par une très forte intensité du sentiment religieux, une remarquable activité volontaire.
Oui, et quelqu'un de très émotif, est-ce qu'on peut dire, parce qu'on le dira aujourd'hui, qu'il n'avait pas grande confiance en lui?
Ah oui, probablement, il avait même aucune confiance en lui. Et ça vient être renforcé du coup par ses incapacités intellectuelles. Donc il se rend compte lors de son enfance assez vite, puisque lorsqu'il est à l'école des frères de Jean-Baptiste de la Salle de Cazeneuve, eh bien à l'âge de 15 ans, il se rend compte que les enfants de sa classe ont entre 8 et 10 ans. Et donc il a un vrai retard, et donc il travaille pendant la récréation pour essayer de compenser ce retard, mais forcément ça ne vient pas l'aider puisqu'il a un grand désir de sacerdoce. Et c'est une de ses difficultés, ça va être de réfléchir comment pallier ses incapacités intellectuelles en vue du sacerdoce.
Oui, et on va voir comment justement il arrive à pallier ses difficultés scolaires. Et au niveau santé, est-ce qu'il a une santé fragile? Est-ce qu'il a des maladies?
On ne peut pas dire qu'il ait une santé vraiment optimisée, puisque il a une santé en effet assez fragile, il est lui-même assez chétif. On voit sur les photos qu'on a, puisque déjà il y avait la photographie à la fin du 19e, sur les photos qu'on a de lui, et puis même lorsqu'il est entré au noviciat, donc le dier dira mercredi 5 décembre, entré au noviciat d'un enfant alors qu'il avait 16 ans, puisque voilà, il avait un physique assez chétif, et en plus il était souvent malade. D'ailleurs il décédera à 25 ans de la tuberculose après une longue agonie.
Oui. William Bourg, vous avez dit que justement à propos de ce physique de ce bienheureux père Cassan, il n'aurait pas pu être un pilier de rugby.
Non, tout à fait, il avait ce côté très chétif, et ça va faire partie de son parcours. C'est en surmontant ce genre de difficultés, voilà, il y a des témoignages qui disent qu'il allait devant les frères au champ pour ne pas que les frères se rendent compte que lui-même était haletant, épuisé avant et après les travaux. Voilà, ça va être un élément de son parcours et de sa sanctification.
Oui, et on devine à travers ce que vous dites l'un et l'autre que ce bienheureux Marie-Joseph Cassan a une volonté quand même assez extraordinaire. Il n'est ni un glorieux missionnaire, ni un éminent fondateur d'ordre religieux. Il avait de grandes difficultés intellectuelles. Qu'est-ce qui lui a permis de devenir prêtre, puisque vous nous avez dit, Alexandre Pontier, qu'il avait vraiment ce désir d'être prêtre. Qu'est-ce qui lui a permis d'être prêtre malgré toutes ses défaillances, cette santé fragile et cette fragilité, une santé aussi faible et...
Oui, il y a deux grandes vertus que possède le père Cassan et qui va lui permettre donc de dépasser ses difficultés intellectuelles. Déjà, c'est une énorme persévérance, une grande persévérance à toute épreuve tout au long de sa vie, une persévérance pour travailler, puisque on a le sentiment, lorsqu'on décrit le père Cassan, souvent on parle beaucoup de ses limites intellectuelles, donc on va avoir le sentiment que c'est un grand benêt. En fait, non, il commence à avoir de grandes qualités intellectuelles à la fin de sa vie. Alors, c'est pas tant des qualités intellectuelles que de connaissances, puisqu'en fait, à force de recopier les livres des mystiques, à force de réécrire et de passer beaucoup de temps à travailler pour pallier, eh bien, en fait, il est loin d'être un idiot. Quand on lit ses dernières lettres, on se rend compte qu'il a même une écriture et une plume assez fine. Par exemple... Il écrit dans une de ses dernières lettres qu'il écrit à ses parents, il écrit « Prenons la résolution de profiter du temps de la vie qu'on compare à un fluide qui s'écoule, à une fumée que le moindre souffle dissipe, à un éclair qui sillonne la nuit et qui disparaît. » Voilà, il fait des métaphores, on a quand même une plume assez subtile, donc on peut dire que grâce à la persévérance, il a pu pallier ses premières difficultés. Et puis, deuxième chose, c'est un immense désir de Dieu, et constant, il ne va pas baisser les bras. Dès le début de sa vie, il désire sacerdoce pour communier chaque jour, on en reviendra, et puis jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à l'aboutissement, donc 8 mois avant sa mort, son ordination, eh bien, il va persévérer sur ce chemin de son chemin de sanctification et de sainteté à travers sa persévérance. Donc la persévérance et l'immense et constant désir de Dieu, c'est les deux choses qui l'ont porté jusqu'au sacerdoce.
Et puis on peut noter aussi une grande patience aussi dans l'épreuve.
Oui, tout à fait. Une grande patience puisqu'il a quand même attendu presque 25 ans avant d'être ordonné prêtre.
Il fallait pas se décourager.
Avec des grandes angoisses, en particulier en 1901 lors de la crise des inventaires, de séparation de l'Église et de l'État, beaucoup d'ordres religieux étaient expulsés de France et les trappistes ont failli y passer, mais pendant longtemps il y a eu une forme d'incertitude qui a créé beaucoup d'angoisse au père Cassan, que ça retarde son ordination, d'être séparé de l'abbaye Sainte-Marie-des-Déserts, d'être séparé de Don André Mallet, son maître des novices. Et il va lutter contre ses angoisses et va prendre une ferme résolution d'en être libéré, de ne pas être surpris s'il y a l'expulsion et de s'en tenir au précepte de son maître des novices, dont André Mallet.
Oui. Et vous parlez justement de résolution, et ça c'est quelque chose qui caractérise le père Joseph Cassan, c'est on peut dire une forme de théologie ou au moins un fil rouge dans sa vie.
Oui, tout à fait. Il prenait souvent des résolutions pour pallier. Dès qu'il y avait un obstacle ou une épreuve dans sa vie, il prenait une résolution pour y pallier. Et même, dont Pierre-André Burton disait, il décrète des véritables trains de résolution qu'il érige en forme de règlement. C'est une sorte de pratique surérogatoire en supplément des pratiques imposées par la trappe. Il se rajoutait des pratiques supplémentaires pour pallier à ses difficultés. Donc il y avait une sorte de théologie comme ça, de la résolution, de prendre systématiquement et immédiatement des résolutions de manière très prompte. Cette pratique va être un petit peu adoucie, on peut dire, ou corrigée, guidée par ses accompagnateurs spirituels, en particulier, bien sûr, le don André Mallet, pour éviter de tomber dans une forme de rigidité religieuse trop renfermée sur lui-même.
Vous auriez un exemple d'une résolution qu'il a pu prendre pour pallier justement à des difficultés?
Bien, par exemple, lorsqu'il était chez les frères Jean-Baptiste de La Salle, il a pris la résolution de travailler pendant les récréations, malgré le fait que les frères lui déconseillaient, ils proposaient il faut se divertir pendant les récréations, c'est important d'avoir un équilibre, et lui il a pris la résolution de travailler pendant les récréations pour pallier à ses difficultés intellectuelles, par exemple.
Alors vous avez parlé de Don André Mallet, et effectivement dans la vie de Marie-Joseph Cassan, il y a deux personnes qui l'ont vraiment accompagné spirituellement, c'est l'abbé Fiol quand il était petit, et puis Don André Mallet au monastère. Qu'est-ce que ces deux prêtres lui ont apporté spécifiquement?
C'est, alors, le premier, l'abbé Philol, c'est une forme, c'est un petit peu un curé d'Ars de la fin du 19e, comme le décrit le père Vidal et l'abbé Chenevière, qui était le premier biographe du père Cassan. C'est une forme de curé d'Ars, donc, qui prend en main vraiment à bras le corps sa paroisse de Casneuil, donc petit village où habite le père Cassan. Et donc Joseph Cassan, dès enfant, face aux difficultés intellectuelles, mais à son grand désir sacerdoce, l'abbé Fiol va le reconnaître, donc va le prendre sous son aile pendant un an. Et en fait, tout part de cette intuition de l'abbé Fiol, c'est que le sacerdoce au grand séminaire, ce ne sera pas pour le père Cassan. Il manque de connaissances, il manque de sciences. En revanche, peut-être que par la trappe, par la vie monastique à l'abbaye Sainte-Marie du Désert, donc à la vie trappiste, eh bien, il arrivera au sacerdoce qu'il désire tant, puisque comme il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de nécessité pastorale à la trappe, eh bien, peut-être qu'ils seront moins exigeants du point de vue de la science et plus sur le désir de Dieu et centré sur le ministère de l'Eucharistie.
Donc il avait vu juste, voilà. Hein.
Et tout à fait, il avait vu juste puisqu'il le présente un an plus tard. Alors pendant un an, du coup, il l'entraîne à la trappe, au presbytère donc de Casneuil. Donc entraînement rude, levée de nuit, ils font les offices, etc. Donc c'est vraiment un entraînement pour voir en fait si le corps du père Marie Cassan peut résister à la trappe.
Et
après un an, il le présente exactement. Ouais. Il le présente à l'abbaye Sainte-Marie du Désert. Mm-hmm. Et c'est là qu'il rencontre cette deuxième personne dont vous parliez. Dont André Mallet, qui est son grand ami spirituel, qui va l'aiguiller, le faire sortir de ses angoisses et de ses scrupules, qui va le faire, on peut dire, hein, l'aider à atteindre la béatification, puisque la béatitude plutôt, et donc ensuite la béatification. Il n'y aurait pas de Marie Joseph Cassan aujourd'hui sans Don André Mallet.
Il a compris ses limites et il l'a aidé à les dépasser.
Exactement. Marie Joseph Cassan était guetté par le repli sur lui-même, ses scrupules, ses angoisses, etc. Et Don André Mallet, il a vraiment permis de se déployer. C'est vraiment un guide et un maître pour lui, et en même temps un grand ami spirituel. Et aujourd'hui, je discutais la semaine dernière avec frère Raphaël, le secrétaire du supérieur général de la trappe, qui me disait que dans la trappe, ils ne comprennent pas toujours pourquoi est-ce que Don André Mallet n'a pas été en cause de béatification en même temps que Marie-Joseph Cassan. Comme on pourrait avoir Comé Damien, Cyril et Méthode ou Louise-Élie Martin, on aurait pu avoir Marie-Joseph Cassan et Don André Mallet, parce qu'en fait, les deux, à travers leur amitié spirituelle, sont fait grandir mutuellement.
Ah oui, c'est ça. Oui, il y a pas que Joseph Cassan, le père Cassan, qui a grandi en sainteté. Il y a aussi ce père.
Exactement.
André Mallet.
Ça a été un pont et un médiateur pour lui.
Ouais. Ah, oui, oui. William Bourg, qu'est-ce qui vous touche particulièrement chez ce père Cassan ?
C'est quelqu'un qui n'a brillé que par sa fragilité. Et donc, en entrant dans la trappe, voilà, on l'appelle le père Marie-Joseph, ça a surtout été un fils. Ça a été le fils spirituel donc du don André Mallet. Et à son arrivée à la trappe, en voyant toute la fragilité et en même temps tout le désir de ce jeune Marie-Joseph, le père André Mallet l'a tout de suite pris sous son aile et à sa première rencontre lui a fait une croix sur le front en l'accueillant à l'abbaye Sainte-Marie du Désert et lui a dit « N'ayez pas peur, je vous aiderai à aimer Jésus. »
Ah, magnifique.
Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que lui-même, en ayant traversé tout ce qu'il a traversé et un chemin qui est marqué par la faiblesse, la fragilité, eh bien c'est lui qui accueille les personnes fragiles du village de François avec des parcours parfois difficiles et qui pose ce même geste vis-à-vis d'eux et qui leur dit voilà, n'aie pas peur, je vais t'aider à aimer Jésus.
Et de fait, alors effectivement, on avait prévu d'en parler un peu plus tard, mais je pense que c'est le moment. De fait, toutes ces personnes, vous êtes une soixantaine maintenant au village de François, avec des personnes qui sont issues de la rue, issues de la prostitution. Comment sont-elles particulièrement touchées par cette figure du père Cassan ?
C'est un proche des tout-petits, puisque la petitesse, même l'humiliation, il l'a connue parmi les frères. Il l'a connu dans son corps, avec sa petite santé. Et donc, il en est familier. C'est quelqu'un qui rejoint.
Mmh. Oui, Alexandre Pontier.
Oui, j'ai demandé un petit peu aux villageois, justement du village de François, comment est-ce qu'ils percevaient Marie-Joseph Cassan et qui était-il pour eux ? Est-ce que c'était comme un maître, un guide, un exemple, etc. ? Et au contraire, les mots qui sont ressortis, c'est... un ami intime, un petit frère ou un voisin lumineux. Il y a vraiment cette histoire de proximité systématiquement dans la relation au Père Cassan. Il est aujourd'hui dans la crypte donc, de la chapelle du Père Cassan, qui est une des trois églises de l'abbaye Sainte-Marie du Désert. Et donc c'est à la fois un lieu de prière et de recueillement, et en même temps le fait de parcourir tous les jours le cloître, les mêmes couloirs que le Père Cassan, ça nous rapproche d'autant plus de lui, et de le voir comme vraiment un petit frère ou un ami, c'est quelque chose de, je trouve, de très touchant, qu'on a peut-être du mal à ressentir avec des saints qui ont fait des choses extraordinaires, dont on se sent un peu plus distant, puisque lui, il a été vraiment glorifié à travers ses traversées de ses fragilités. Voilà.
Et puis, c'est, et en fait, vous le voyez aussi comme un habitant de ces lieux, et étant vous-même habitant du village de François, voilà, vous êtes, on pourrait dire, un colocataire du Père Cassan, quoi, quelqu'un qui se fait très proche de vous, en fait. Avec qui vous partagez la vie.
Je dirais même, de la même manière que les moines ont construit et laissé cette abbaye, que le père Marie-Joseph est un précurseur de ce qui est aujourd'hui le village de François. Voilà, il était là avant pour préparer l'accueil, et il a cette grâce particulière pour les personnes fragilisées.
Vous avez dit que effectivement la dépouille du Père Cassan est à l'abbaye. Concrètement, est-ce que vous avez des temps, ou est-ce que vous avez une prière spécifique pour vous adresser à ce Père Cassan?
Alors il y a des neuvaines au Père Cassan qu'on dit donc avant son anniversaire de béatification, le 3 octobre. Il se trouve que le lendemain du 3 octobre, le 4 octobre, c'est la Saint-François, donc c'est une fête importante pour le village de François. Oui. Donc c'est les hasards de calendrier, mais qui sont assez touchants et providentiels. Et puis avant sa fête, le 17 juin aussi, on a des neuvaines au Père Cassan. Le matin, au village de François, on propose pour les personnes accueillies et les bénévoles de prier les laudes. Et on a souvent des intentions aussi à l'intercession du Père Marie-Joseph Cassan. Et tout au long de... Donc là, on a fait une grande fête samedi avec Monseigneur de Kerimel est venu présider la messe de cette fête du Père Cassan. C'est un événement important où tout le village s'est retroussé les manches pour faire de l'abbaye le lieu le plus beau possible, pour faire rayonner le Père Cassan sur l'extérieur, sur les voisins et les amis du Père Cassan, les personnes de Toulouse qui sont venues pour découvrir cette figure de sainteté qui est assez peu méconnue en réalité en dehors de... du milieu trappiste et puis très localement, alors que je pense qu'elle a beaucoup à apporter à notre époque à travers cette figure de persévérance, son immense désir de Dieu, et malgré ses fragilités, je crois qu'il va à rebours de l'homme moderne, ou de la vision que la cité nous donne de l'homme moderne, et qui pourtant, le Père Cassan nous amène vraiment à ce désir de Dieu et cet amour du cœur de Jésus, de l'Eucharistie, de la Passion.
Mm-hmm. Oui, William.
C'est cette dévotion, en effet, on l'a en commun à travers ces neuvaines, certaines qui ont été écrites par des habitants. Puis, bien sûr, en particulier, voilà, il y a plusieurs amitiés particulières entre des villageois et ce Père Marie-Joseph Cassan qui les a touchés à l'un ou l'autre moment. Et cette dévotion aussi, c'est quelque chose qu'on cherche à partager. Et donc, l'abbaye se visite aujourd'hui toutes les semaines. Et c'est l'occasion aussi de faire découvrir la crypte et voilà la figure de ce, oui, de ce bienheureux aux personnes de l'extérieur.
Mmh. Ce qui peut paraître étonnant, c'est que finalement, parmi les personnes accueillies, vous avez des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Et comment elles sont touchées par cette figure chrétienne, et alors qu'elles n'ont pas forcément une dimension religieuse dans leur vie?
Je crois que justement, il les rejoint à travers la fragilité. Alors tout le monde à l'abbaye et certains sont, tout le monde n'est pas touché par le père Marie-Joseph Cassan, parce que soit parce qu'ils ne le connaissent pas bien, ou parce qu'ils ont déjà d'autres figures de sainteté qui sont des piliers ou des amis proches dans leur vie, comme Sainte Thérèse de Lisieux ou d'autres, mais je crois qu'il y a aussi des personnes qui sont en effet pas de confession chrétienne et qui sont touchées par Marie-Joseph Cassan, parce que Marie-Joseph Cassan, il a en commun avec eux qu'il était fragile, qu'il a eu des galères. Et ça fait vraiment un point commun. Et on peut comprendre, je crois, même en n'étant pas catholique, que quelqu'un qui est animé par un grand désir, une grande vocation, un grand idéal de vie, vienne dépasser ses fragilités. Ça reste quelque chose d'assez touchant, et que nous-mêmes, on peut observer chez des grands humanistes, athées, ou voilà, et qui peuvent être une source d'inspiration, même si... ici à l'abbaye, on a aussi des beaux exemples de personnes qui sont touchées par la foi des autres habitants, donc la foi des moines qui les ont précédés, qui sont interpellés par ces prières, etc. Alors tout est facultatif, hein, pour les personnes accueillies, Mais c'est quand même un endroit, mine de rien, de mission, mission par la vie quotidienne, mission auprès des personnes accueillies, malgré nous ou parfois à travers des discussions édifiantes.
Mmh. Est-ce que vous êtes témoin, et peut-être vous, William, puisque ça fait plus de 4 ans et demi maintenant que vous êtes au village de François, est-ce que vous êtes témoin de, je mets miracle entre guillemets, d'intercession du père Marie-Joseph Cassan au village de François?
Tout à fait. La plupart du temps, c'est discret. C'est un homme discret. Mais vous parliez voilà, des personnes accueillies qui viennent sans leur relation plus profonde que ça avec la foi. Et certaines ont malgré tout une belle amitié avec le père Marie-Joseph, qui lui-même choisit ses protégés.
Ah.
Et voilà, l'une d'entre elles porte régulièrement la médaille du père Joseph Cassan. Et puis, voilà, je suis témoin pour ma part de ces petites intercessions, de ces clins d'œil qui sont signés avec une grande délicatesse et qui viennent très clairement de lui.
Oui, c'est ça. Mais c'est discret, à son image.
Tout à fait.
Voilà, il n'y a pas d'événement clinquant.
Oui, j'ai été aussi assez touché de voir qu'un de nos colocataires accueillis, qui n'était pas chrétien en arrivant, aujourd'hui porte aussi une médaille du père Marie-Joseph Cassan. Parce que, alors je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai remarqué ça, ça m'a beaucoup interpellé. Alors il y a eu quand même un miracle un petit peu, on va dire, exceptionnel pour la cause de béatification.
Ah oui.
De Marie-Joseph Cassan en 1936. Un enfant de 9 ans qui a été... guéri subitement d'une méningite cérébro-spinale foudroyante dont il allait mourir de manière imminente. Et c'est étonnant de voir que c'est un enfant qui a été touché par cette grâce, parce que le père Marie-Joseph Cassan avait cette relation d'enfance à Dieu, un petit peu comme Saint Thérèse de Lisieux, cette théologie de l'enfance où on est petit enfant devant Dieu et c'est Dieu qui va nous amener à lui et c'est pas nous qui, avec nos forces pélagiennes, arrivons jusqu'à lui. Donc il y a vraiment ce... C'est encore ce clin d'œil-là d'un enfant qui est sauvé, un jeune enfant.
Oui, c'est vrai. Vous nous avez parlé du grand désir de Dieu du père Marie-Joseph Cassan. Et puis, je vous propose, après cette pause musicale, que vous nous parliez de son grand amour de l'Eucharistie, du cœur de Jésus, qui était le cœur de sa foi. Nous écoutons « Regardez l'humilité de Dieu » interprété par les petits chanteurs à la Croix de Bois. Et nous vous retrouvons Alexandre Pontier et William Bourg juste après cela.
Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous, point de se cacher dans une petite hostie de pain.
Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité.
Vivante Église, Isabelle Duché.
Le bienheureux Marie-Joseph Cassan et la dévotion au cœur de Jésus, c'est le sujet de Vivante Église aujourd'hui et de son lien avec le village de François. Nous sommes avec Alexandre Pontier, chargé des archives de cette abbaye et qui habite aujourd'hui au village de François, qui a repris la suite de ces moines trappistes de Sainte-Marie-du-Désert. Et puis William Bourg, qui est habitant de ce village de François depuis 4 ans et demi. Alors, la dévotion de Joseph Cassan, vous en avez parlé au début, il avait un grand désir de Dieu. Il a eu un grand amour de l'Eucharistie. Comment l'exprimait-il ?
Alors moi, j'aime bien dire que le père Cassan a une sorte de spiritualité de synthèse, puisque du coup, alors il sera probablement jamais docteur de l'Église, qu'il n'a rien inventé par lui-même ou rien approfondi de nouveau. En revanche, à travers ses lectures de mystiques, il a eu vraiment certains éléments centraux, finalement, de la foi catholique, assez christocentrés, qui vont l'amener à avoir une forme de spiritualité vraiment propre. Son cri de ralliement, tout pour Jésus, qu'on ajoute parfois, il a écrit à d'autres endroits, tout pour Jésus, tout par Marie, mais toute sa dévotion mariale est vraiment très christocentrée en réalité. Ce tout pour Jésus, qui est vraiment son cri de ralliement, ça va l'amener à quatre grandes dévotions. La première, c'est la dévotion de l'Eucharistie, en effet, comme vous l'avez dit. C'est probablement sa première grande dévotion. Dès tout petit, avant ses 6 ans, donc quand il était encore au Gaillot avec ses parents et son frère Émile, il fait des autels en carton, il se bricole une petite liturgie, des petits objets liturgiques personnels, et puis il commence à répéter la messe, et il répète à qui veut l'entendre, « Moi veux être turé ». Voilà. Et il dira plus loin, « La communion, c'est ma vie », au moment de faire à peu près sa première communion. Et en fait, à l'époque, il faut savoir qu'il y avait encore quelques relents de jansénisme, et donc communier tous les jours, c'était extrêmement mal vu, voire interdit parfois, avant certaines réformes lancées donc par Pie X. Et donc, lui, qui souhaitait vraiment communier quotidiennement, il s'est dit, petit raisonnement tout simple dans la tête d'un enfant, « Si je suis prêtre, je pourrais communier tous les jours », dit-il. Et donc, c'est pour ça, son grand désir sacerdoce vient d'abord, en fait, de ce désir de Dieu, de ce désir de communier chaque jour.
Voilà. Ah oui. Vous avez dit qu'il s'appropriait des écrits de saints. Quels saints en particulier ?
Alors là, du coup, sur l'Eucharistie en particulier, c'est Marie-Eustelle Arpin, voilà, une mystique de Charente-Maritime, qui a vécu aux premières moitiés du 19e siècle. Il lit beaucoup, donc son écrit, c'est L'Ange de l'Eucharistie. Il lit beaucoup L'Ange de l'Eucharistie, il recopie des pages entières, très touché par ça, et donc en particulier par l'exposition au sein de Saint-Sacrement, puisqu'elle était vraiment, donc elle était sacristaine, et donc elle parle de voilà, cette proximité avec les objets liturgiques, et du coup avec le Saint-Sacrement exposé. Mmh. Et en particulier, il y a une anecdote très amusante, je trouve, sur le père Cassan, et qui est assez révélateur, c'est que le père Cassan n'avait pas une très bonne vue, et il portait des lunettes, mais assez rarement en réalité, sur aucune de ses photos ou de ses représentations, on le montre avec des lunettes. Mais ces lunettes, il les portait systématiquement lors de l'exposition du Saint-Sacrement pour, dit-il, mieux voir Jésus et ne rien perdre de ce contact avec les yeux dans les yeux avec le Seigneur. Dans la dernière page de son carnet de noviciat, il écrit « Brûlé d'amour devant le Saint-Sacrement exposé ».
Oui, donc là, on voit bien qu'il avait un grand amour pour l'Eucharistie et que l'adoration du Saint-Sacrement avait une part importante dans sa vie.
Exactement. Exactement. Et alors, il y a une autre dévotion qui est forcément un petit peu liée, c'est la dévotion pour la passion de Jésus, pour la passion du Christ. Et vous me demandiez quels sont les saints qui l'ont inspiré. Eh bien, oui. Un autre saint, c'est Saint Alphonse de Liguori qui a écrit L'Horloge de la Passion. Et l'horloge de la passion, donc de méditation sur la passion du Christ, c'était aussi sa lecture de chevet lors de son agonie. Et il demandait à Don André Mallet, son accompagnateur spirituel, de lui lire et de lui relire pour méditer cette passion. Il faisait, lorsqu'il était au monastère, un chemin de croix chaque jour, à genoux lorsqu'il le pouvait.
Oui, d'accord. Et donc on imagine que le Vendredi Saint, il était particulièrement présent pour être aux côtés du Christ pour vivre sa passion.
Exactement, j'imagine.
Oui, c'est ça. On ne peut pas dissocier l'Eucharistie de la dévotion au Sacré-Cœur et de la passion du Christ. Comment le bienheureux Marie-Joseph Cassan était-il attaché ?
Alors, la dévotion au cœur de Jésus, au sacré cœur de Jésus, c'est une dévotion que portait particulièrement Don André Mallet, donc son maître des novices. Mais en réalité, on retrouve que cette dévotion, elle est antérieure à sa rencontre avec Don André Mallet, donc à son arrivée à l'abbaye d'Isère. Il avait déjà cette dévotion au Sacré-Cœur, mais cette amitié spirituelle avec Don André Mallet l'a renforcée et lui a donné une place essentielle dans la vie de Marie-Joseph Cassan. Cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, on la retrouve par exemple dans ses lettres, dans la dernière lettre qu'il a écrite à ses parents. Donc en décembre 1902, lorsqu'il rentre à l'abbaye Sainte-Marie-du-Désert après un petit temps de pause parce qu'il avait des problèmes de santé dans sa famille, « Pour arriver à bien employer tous nos moments, il nous faut tout faire par amour en union avec le cœur de Jésus et repousser les préoccupations inutiles. Vous aurez la bonté d'offrir mes vœux de bonne année à monsieur le curé, etc. Le meilleur souhait que je puisse faire, c'est que nous restions toujours unis dans le cœur de Jésus. » Donc il évoque par deux fois le cœur de Jésus dans sa lettre à la fin en guise de conclusion. Puisque être au plus près du cœur de Jésus, donc faire la volonté de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui va le toucher. Et c'est intéressant de voir que du coup, la dernière encyclique du pape François, finalement, Dilexit Nos, est spécifiquement sur cette vénération du cœur de Jésus. Alors le père Cassan n'y est pas cité, mais ça aurait pu, puisque c'est un des grands dévots du cœur de Jésus avec Don André Mallet.
Mmh. Voilà. William Bourg, vous m'aviez dit que vous aviez été touché par cette figure de Marie-Joseph Cassan. Est-ce que ce bienheureux vous a mis sur le chemin, justement, de cet amour du cœur de Jésus, de cette dévotion ?
Pas vraiment. Aujourd'hui, ce n'est pas une dévotion que je porte personnellement. Et je n'ai pas le sentiment que d'autres non plus qui aient fait cette rencontre du père Marie-Joseph aient forcément été portés à la dévotion du cœur de Jésus. Peut-être qu'elle est encore mal comprise. Mais voilà, c'est... En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont dévotes du Père Marie-Joseph sans forcément avoir été touchées par cette dévotion au Sacré-Cœur.
D'accord. Et oui, Alexandre ?
Oui, en fait, je pense que la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus est quand même commune à beaucoup de grandes figures de saints et de mystiques du 19e siècle.
Oui, exactement.
Et donc, c'est pas, on va dire, une spécificité du Père Marie-Joseph Cassan, même si c'est quelque chose qui lui tenait très à cœur. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nos contemporains, on est plus marqués par c'est ce qui va faire la spécificité du Père Marie-Joseph Cassan, c'est sa traversée des fragilités, etc. Peut, je pense, plus nous marquer que sa dévotion au corps de Jésus, qui est une dévotion qu'on retrouve de manière plus déployée à Parelmonial, par exemple, avec Sainte Marguerite Marie à la coque.
Dont nous fêtons les 150 ans cette année.
Les 350
ans. 350 ans, pardon. Oui. J'ai toujours un problème avec les chiffres, moi. Alors, donc, dévotion du Père Marie-Joseph Cassan, enfin, en tout cas, grand amour de l'Eucharistie, grande proximité avec la Passion du Christ, grande dévotion au Sacré-Cœur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de la spiritualité du Père Cassan ?
Oui, alors, je crois qu'il y a un autre pilier qu'on a un petit peu mis de côté, mais qui est important aussi, c'est sa dévotion mariale. Il avait une grande dévotion mariale qui était, donc j'ai dit, christocentrée, donc qui était Marie par Marie pour Jésus. Une anecdote que raconte Émile, donc son grand frère, c'est qu'en mai 1886 meurt sa grand-mère paternelle, et c'est elle qui fleurissait tous les reposoirs pour le mois de mai, les reposoirs donc pour Marie, tous les petites statues mariales qui étaient sur les chemins au Gaillot. Et toute la famille était étonnée de se rendre compte que, bah, après sa mort, ils étaient toujours fleuris. En fait, le petit frère Marie-Joseph Cassan, à l'époque, donc très jeune, à 8 ans, avait commencé à fleurir toutes les statues mariales par dévotion. Et lui, alors, sa grande dévotion, donc qu'on retrouve dans ses carnets à l'abbaye, c'est la dévotion à Sainte Vierge Immaculée Notre-Dame du Noviciat. Qu'il a passé finalement la plupart de sa vie à la Sainte-Abbaye-Marie-Désert au noviciat. Et donc, Notre-Dame du noviciat était sa dévotion particulièrement présente dans sa vie à la Vierge Marie. Voilà.
Mmh. Et de fait, au village de François, est-ce qu'il y a une dévotion à la Vierge Marie qui est particulièrement marquée, William ?
Oui, bien sûr. C'est elle qui nous accueille à l'entrée de l'abbaye Sainte-Marie-du-Désert. C'est une figure qui est très aimée. Et pareil, il y a des tout-petits qui, discrètement, aiment à fleurir l'une ou l'autre de ces statues, et donc on retrouve souvent des bouquets qui poussent dans les... Voilà,
qui viennent orner la statue de la Sainte Vierge.
À l'improviste.
Ah oui.
Exactement. Et je dirais même plus, c'est aussi une porte d'entrée de l'Église. Chez certains, on voit d'abord une dévotion mariale qui petit à petit s'affine et devient une curiosité pour l'Église, pour Jésus, etc. Parce que je pense qu'il faut être conscient que beaucoup des personnes accueillies à l'abbaye Sainte-Marie-de-Lézère, en tout cas pour certains, la vie de famille a été quelque chose d'assez compliqué, d'assez douloureux, parfois avec la relation avec leurs parents, avec leur mère ou avec leur père. Et ici, de retrouver une mère pleine de tendresse et de miséricorde, c'est quelque chose qui est particulièrement touchant, je crois, pour les personnes fragiles.
C'est consolant, oui.
Je vais compléter, merci Alexandre de ce que tu dis, parce qu'en effet, on a eu l'exemple d'une personne accueillie au village de François, avec un parcours très cassé, passé par la prison, l'alcool, et quand il se confiait un peu personnellement, il disait « mais moi je ne suis pas capable de prier, Dieu, Jésus, c'est trop loin pour moi ». Mais par contre, je me confie complètement à ma maman Marie. Et c'est elle, ma présence au ciel. Et voilà. Et donc, cette personne éloignée de la foi, on a quand même partagé des très beaux temps de prière autour de sa dévotion et de son amour pour la Vierge Marie.
Voilà. Et donc, vous me posiez la question des théologies spécifiques du Père Cassan. Alors, le Don Pierre-André Burton aime à dire qu'il a une spiritualité des ponts. Il a appris donc d'expérience que le Père Cassan, il avait besoin, lui, d'humbles médiations pour aller à Dieu. Ces médiations, donc ces ponts qui vont l'amener à Dieu. Et toute la vie du frère Marie-Joseph, ça a été de recourir à la prière jusqu'à arriver de l'autre côté du pont. En servant donc de tous les ponts qu'il a pu trouver sur sa route, ça peut être à la fois des médiations humaines, des médiations sacramentelles, et qu'il n'a pas hésité à utiliser dès qu'il était petit. D'ailleurs, il traversait le pont deux fois par jour, qui était au-dessus du Lot, donc à Cazeneuil. Une petite anecdote. Ce pont terrorisait les enfants du village, puisqu'on disait que le jour de l'Ascension, il s'était effondré il y a quelques années, et qu'il y avait une très vieille demoiselle inconsolable de la mort de son fiancé qui rôdait et qui terrifiait les enfants ici. Et le frère Marie-Joseph Cassan a dit à la fille du sacristain, « Si tu ne veux plus avoir peur en traversant le pont quand tu y arriveras, il te faut prier Dieu jusqu'à ce que tu sois de l'autre côté. » On retrouve cette spiritualité de la résolution.
Oui, c'est ça.
Une épreuve, résolution, oui. On prie Dieu pendant toute la traversée du pont pour ne pas avoir peur.
Oui, c'est très concret en fait. Hein.
Oui, et en plus on retrouve un lien avec Sainte Thérèse de Lisieux, qui est donc contemporaine de Marie-Joseph Cassan, puisque en réalité ils ont quasiment les mêmes dates de naissance et de mort à 5 années près, hein, mais donc ils se connaissaient pas, ils ne se sont pas rencontrés, c'était au carme et à la trappe. Mais en revanche, Thérèse de Lisieux parle de l'ascenseur, la petite voie, l'ascenseur vers Dieu. Ben ici, la spiritualité des ponts, c'est un peu pareil. Si on va prendre les ponts pour aller vers Dieu, des médiations, d'autres personnes qui vont m'aider, des sacrements qui vont m'aider à aller vers Dieu. Comme je suis un enfant devant Dieu, humble et petit, bien que j'ai besoin de choses qui vont me faire aller plus directement vers Dieu. Voilà.
Oui. Lors de l'inhumation de Marie-Joseph Cassan, a été placé sur son corps un écrit qui précise « Il fut un homme juste, simple et droit, aimé de Dieu et des hommes, dont la mémoire est en bénédiction. Dans la fidélité et la douceur, Dieu l'a conduit à la sainteté et l'a choisi parmi tous les vivants. » Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure cette émission sur son message aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui, ce père Marie-Joseph Cassan?
Eh bien, je pense qu'il faut se rappeler sa maxime « Tout pour Jésus », qui est donc qu'il répétait à qui veut l'entendre. Pour nous, chrétiens, et aussi pour nos contemporains qui sont pas forcément touchés par la foi chrétienne, je crois qu'il peut être un exemple de persévérance à travers les fragilités. Et puis, il faut pas hésiter à s'appuyer sur l'exemple édifiant d'amitié spirituelle qu'il y a eu entre lui et Don André Mallet, dont on, je pense, ne parle pas suffisamment encore, cet exemple édifiant d'amitié spirituelle, parce qu'aujourd'hui, on va avoir tendance à plutôt mettre l'accent sur l'amour conjugal, sur l'amour filial, sur les relations, l'amitié d'intérêt, la filia crisis, comme dit Aristote. Et je crois que l'amitié spirituelle, donc cette amitié qui va au-delà, on est amis parce que l'autre est bon, parce que la vertu nous pousse à cette amitié qui va nous élever vers Dieu, c'est vraiment quelque chose, un exemple qui est à la fois sur une ligne de crête assez subtile, hein, parce qu'il y avait une grande dépendance affective entre le père Cassan et André Mallet, donc peut-être pas forcément rechercher cette dépendance affective, mais en revanche, le fait de se tirer mutuellement vers Dieu à travers une amitié, c'est quelque chose qui est à la fois édifiant et important pour les moines aujourd'hui. Les moines moines trappistes en particulier, sont très attachés à cette amitié spirituelle entre Joseph Cassan et Don André Mallet. mais aussi pour les laïcs. Je crois qu'on a, qu'on peut chercher autour de nous des amitiés et des amis spirituels pour nous tirer vers le haut.
Et en tout cas, dans, dans le, ce que vous vivez au village de François, il y a aussi cette, cette, cet appel, cette aspiration à vous tirer les uns et les autres vers le haut, William ?
Oui, bien sûr, on est là pour ça, c'est l'objectif du projet. Et voilà, vous demandiez quel serait son message aujourd'hui. Mmh. Je pense, moi, tout de suite à la devise du village de François, les personnes fragiles sont une chance. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il porte et ce qu'il a apporté, que la fragilité n'est pas, n'a pas été pour lui un obstacle à la sainteté, qu'elle ne l'est pas. Et que le fait, voilà, il a été très mal considéré, souvent humilié, le fait d'être un raté dans la vie, ça n'empêche pas d'être un saint. Mmh. Et pour moi, c'est là où il a un vrai message à nous donner aujourd'hui.
Merci, ce sera votre conclusion et elle est pleine d'espérance. Vous nous avez donc parlé de ce bienheureux Marie-Joseph Cassan, de sa dévotion au cœur de Jésus, à la, l'Eucharistie, à la, la passion du Christ. Et puis évidemment, vous nous avez montré comment ce, ce bienheureux Marie-Joseph Cassan touche les personnes qui sont accueillies au village de François. Je vous remercie donc Alexandre Pontier et William Bourg de nous en avoir parlé ce matin.
Avec plaisir.
Merci. Merci
Isabelle.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.